cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonsoir, effectivement. Alors, vous publiez chez Accor un double album, un double CD qui s'intitule « Regard sur le XXe siècle », un double album qui réunit, qui rassemble des pièces aussi bien signées, enfin, on va dire une sélection assez éclectique qui va de Messiaen à Boulez en passant par Schoenberg, Charles Ives, Betsy Jolas, etc. Mais un album qui est également un hommage à Claude Elfer. Alors, peut-être justement, comment c'est quelle est l'origine de ce projet? Est-ce qu'à la base, c'était vraiment l'hommage, ou plutôt cette volonté de balayer un spectre assez large du piano pour le XXe siècle?
C'est-à-dire que, bon, d'abord parce que je suis un vieux monsieur, très vieux maintenant.
Je suis né au siècle dernier, quand j'ai commencé mes études de musique, j'ai pas commencé traditionnellement par les vrais classiques comme on fait habituellement. Bon. Ce qui fait que mes premiers contacts avec la musique ont été plutôt justement vers des auteurs, pas forcément toujours d'ailleurs de première catégorie, entre guillemets de première catégorie, mais des compositeurs vivants à l'époque où je faisais. Donc les années 1960, 1970, vous voyez, à l'époque où je commençais, mais c'est tout jeune mes études de musique.
Mais à quoi ressemblaient vos oreilles, j'allais dire, à ce moment-là? Elles étaient ouvertes à quel type de son?
On ne sait pas. Moi, un enfant, il écoute tout ce qu'on lui donne. Hein. Il n'a pas d'idées préconçues. Seule l'éducation, quelquefois un peu trop orientée, arrive justement à couper un peu les élans qu'on pourrait avoir sur d'autres. Vous voyez, sur d'autres. Comment je peux dire? Sur d'autres moyens, sur d'autres. Moyens d'expression, sur d'autres époques, sur d'autres techniques, enfin toutes ces choses-là, quoi. Donc probablement, ces premiers contacts avec cette musique-là sont restés au fond de moi-même tout le temps comme ça. Mon parcours musical a été ce qu'il a été. J'ai fait du saxophone, j'ai fait du piano, j'ai été amené à rencontrer évidemment Olivier Messiaen. Par les concerts Messiaen, j'ai rencontré d'autres interprètes qui jouaient de sa musique, et pas seulement de sa musique, mais aussi la musique du XXe siècle, dont Claude Elfer. On a parlé beaucoup. J'avais besoin de conseils sur certaines des œuvres. Il m'en a donné quelques-uns. Et d'un seul coup, malheureusement, Claude Elfer nous a quittés il y a maintenant plus de 2 ans. Les conversations qu'on a eues, les contacts qu'il m'a permis d'établir avec d'autres compositeurs vivants, tout ça, j'ai trouvé dommage de laisser comme ça, et c'était, presque après coup, ça peut être rendre un hommage à ce monsieur qui a été très gentil avec moi et qui m'a beaucoup apporté. Donc j'ai rassemblé sur ce disque des compositeurs que lui avait joué beaucoup, que moi je connaissais, commençais à connaître, et qu'il m'a permis d'approfondir, pas spécialement pour cet enregistrement, mais d'une manière générale. Et j'ai dit, c'est l'occasion de faire d'une pierre 2 coups, à la fois jeter une espèce de regard sur un siècle qui est terminé, hein, sur toutes les, essayer d'exploiter, pas toutes, parce que c'est impossible, mais quelques grandes voies de la musique moderne telle qu'elle se dessinait à ce moment-là. Et par contre-coup, évidemment, lui rendre hommage parce que lui-même les avait explorés avant moi. Vous voyez, c'est un peu ça pour fond l'histoire de cet enregistrement.
J'imagine qu'en tant qu'interprète, il y a une particularité à à se plonger dans un univers musical d'un siècle qui est le sien, c'est-à-dire des compositeurs que vous avez connus pour certains, oui. Et d'autres qui sont, voilà, qui sont quand même proches. Est-ce que y a un côté comme ça de lien presque physique ?
Je sais pas. Je sais pas si comment dire, il y a d'autres auteurs du passé qui me parlent presque plus que ceux d'aujourd'hui. Et donc c'est plutôt quelque chose qui touche au sens, non pas tactile justement, à ce que ça évoque en soi-même, ce que ça peut évoquer comme vibration, comme image, aussi comme émotion, c'est plutôt ça qui fonctionne. Le fait que le compositeur soit vivant ou non, au fond, c'est pas tellement important. L'une des pièces que j'adore là, dans ce double CD, c'est celle du compositeur Charles Ives, qui est mort avant que je sois né, cette pièce me parle beaucoup, parce que je la trouve d'abord complètement délurée, et à la fois curieusement il y a une espèce de structure là derrière qu'il faut savoir comprendre, qu'il faut savoir restituer. Enfin, il y a un double aspect dans cette musique là qui donne l'impression de partir dans tous les sens, et à la fois curieusement à la fin de l'œuvre on se dit non, d'un chien, c'est un édifice hyper solide quand même à la fois. Donc vous voyez, par exemple, cet auteur là je l'ai jamais rencontré, je l'ai approché, sa musique a dégagé des choses qui m'ont permis d'exprimer ce que je ressentais. Donc il y a d'autres auteurs comme ça qui me font cette pas pour toutes les œuvres d'ailleurs, c'est-à-dire que généralement les musiciens aiment tous les compositeurs. Quand on est musicien et qu'on est sensible à la musique vraiment, on aime tous les compositeurs, mais dans la production des compositeurs il y a des œuvres qu'on aime plus ou moins. Chez Schumann, par exemple, il y a une œuvre qui n'est pourtant, par rapport à ce que les autres musiciens interprètes disent, qui n'est peut-être pas forcément la plus géniale, mais moi que je trouve, mais qui me fait fondre. Mais quand je dis fondre, c'est rien de le dire, ça me met le pouf, c'est les yeux qui mouillent tout seul. C'est les scènes d'enfants. Pourquoi ? Je peux pas dire. Je ne les ai jamais jouées, mais le jour où je les jouerai, je sais que je les jouerai bien. Je le sais, sans raconter de bobard en disant c'est moi le meilleur. C'est pas ça du tout. C'est que je le sais. Je sais qu'il y a des évidences comme ça. Alors, pour revenir à votre question, c'est pas un contact forcément, direct, physique avec la personne que je joue, je dirais, qui est le plus important. C'est ce qui se dégage de ce qui est écrit, qui compte le plus.
Le choix des œuvres sélectionnées pour ce double album. Oui. Est-ce que certaines œuvres ont appelé d'autres œuvres ? Il y avait un aspect miroir, j'imagine,
oui. Oui, de réponse. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que d'abord, j'ai essayé de décliner les voix les plus marquantes déjà. De cette musique du XXe siècle, c'est-à-dire qu'après 1890, on va dire, grosso modo, le système de la musique tel qu'il s'écrivait jusqu'à cette époque-là, vraiment commençait à tomber en quelque sorte en désuétude. Il fallait trouver d'autres systèmes. Debussy a été l'un des premiers innovateurs. Schoenberg a pris un autre chemin. Bartok en a pris encore un autre. Schoenberg, en ouvrant ce chemin, a ouvert la voie à Boulez, qui a été exploité par Messiaen. Bartok est resté un peu à part dans son domaine, mais Bartok était déjà le prolongement de Franz Liszt à la fin du siècle précédent, qui lui-même, Franz Liszt, avait déjà donné un sérieux coup de frein à ce système. Donc, ce sont ces voix-là et quelquefois leur filiation que j'ai essayé d'exploiter. Alors, il n'y en a pas énormément, ça ne reste qu'un double disque, bien sûr. Mais dans les doubles disques, il y en a un qui est plutôt sur la musique, j'allais dire, d'Europe et Europe de l'Est. Et puis, il y en a un autre qui est plutôt sur le continent américain, canadien. Il y a deux disques et deux entités différentes.
Ce double disque, comme son nom l'indique, est un disque. Quel rapport vous avez avec l'enregistrement ? C'est-à-dire gravé pour l'éternité, pourrait dire un peu pompeusement, une œuvre ? Est-ce que pour vous, ça a une signification? Est-ce qu'on est en plus dans une période de transition, j'allais dire, entre l'objet disque, ouais, avec ce avec quoi vous avez été, j'allais dire, au début, bercé, ouais, élevé musicalement, ouais, dans une période de, maintenant de dématérialisation où la musique peut être écoutée ouais, morceau par morceau? Ouais. Quelle signification vous donnez à un enregistrement
Oui. Eh bien, écoutez, c'est terrible comme question parce que je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que, comment dire, il y a quelques années, quand j'ai fait mon premier disque, je faisais ça avec une importance. Je me disais, ça y est, je laisse un truc, machin. J'avais l'impression d'être un personnage important. Il est vrai que, j'allais dire 20 ans en arrière, le disque n'avait pas la même signification déjà qu'aujourd'hui. Même si ça avait déjà évolué, ce n'était pas tout à fait la même chose. Je garde dans ma bibliothèque de disques, dans ma discothèque chez moi, quelques enregistrements témoins de musiciens beaucoup du passé, qui là sont des vrais témoignages de ce que sur le plan historique on faisait à cette époque-là. Ça, évidemment, dire qu'aujourd'hui le disque était le témoin de ce qu'on fait, j'en suis plus très sûr.
Est-ce que je vais vous demander, parce que vous dites un vrai témoignage, qu'est-ce que c'est qu'un vrai témoignage par rapport à...
Un vrai témoignage, c'est-à-dire qui soit le résultat, je dirais, d'une... Il faut que je me méfie de ce mot, mais c'est à la fois ça, le résultat d'une tradition qui était... Je parle des enregistrements qui ont 60-70 ans en arrière, hein, qui sont les résultats d'une tradition qui était encore très proche de la tradition romantique, donc de 60 ou 70 ans encore avant. C'est très très proche. On a des enregistrements de 1820, 1810, où on entend encore, je sais pas, on pouvait entendre Camille Saint-Saëns, Claude Debussy jouer. Ces gens-là, 60 ans avant, avaient connu Schumann, avaient connu Brahms. On était très près de cette tradition-là et du témoignage de ce que les gens aimaient entendre à cette époque-là. Ça me semble important. Alors aujourd'hui, évidemment, ces traditions-là s'éloignent de plus en plus. Aujourd'hui, on ne, entre guillemets, témoigne que de ce que l'on est sur le moment. Et ce que l'on est sur le moment tombe très vite. Je veux dire, les artistes aujourd'hui chassent ceux qui sont partis. Et ça, la moulinette va de plus en plus rapidement. Je ne suis pas certain qu'un musicien violoniste aujourd'hui arrive au même type de carrière que Yascha Heifetz, je veux dire au début du 20e. Pianiste n'aura peut-être plus du tout, je pense, la même notoriété qu'a pu l'avoir Horowitz ou Rubinstein dans leur époque. C'est un rythme de carrière et donc un rythme de production de disques qui a complètement changé. Le disque ne devient donc plus le témoignage d'une pensée de ce qu'on est, mais hélas, un peu la manière de rappeler aux gens qu'on existe. C'est un peu une carte de visite. C'est un peu triste ce que je dis, mais c'est quand même un peu au fond ce que je pense. Alors maintenant, tout réside dans la manière de remplir la carte de visite. C'est-à-dire que soit on met Muraro pianiste, soit on l'écrit comme ça, pif pif paf, tu vois, soit alors on l'écrit en lettres italiques, soit machin. Et à ce moment-là, on se penche un peu sur la manière d'écrire cette carte de visite. Et à ce moment-là, les gens la lisent avec plus, l'écoutent avec plus d'intérêt. Et puis, à ce moment-là, il y a encore de l'émotion qui se dégage. De toute façon, la technique d'enregistrement a terriblement évolué. La moindre petite fausse note peut être corrigée. Donc tout est laissé maintenant à l'intégrité et au choix de l'artiste lui-même qui joue. Si l'artiste décide de faire un enregistrement parfaitement, restituant parfaitement la logique du texte et puis la propreté technique, il peut très bien le faire, au détriment sûrement d'une part de la vie indispensable, ou alors il peut laisser passer, une petite imperfection au bénéfice d'un discours qui sera plus... Bon, j'avoue que c'est plutôt mon cas. Si on écoute attentivement les enregistrements que j'ai faits, d'ailleurs il y en a beaucoup que j'ai fait en public, et ces deux disques-là en question, sur la totalité des œuvres, ça fait à peu près 2 heures de musique, il doit y avoir 1h40 de musique enregistrée en live. Donc, et en live, c'est inévitable, il y a toujours ping, bang, il y a toujours un moment ou un autre, le doigt qui ne va pas toujours complètement sur au bon endroit, au bon moment. Quoi. Bon.
Mais ça a un impact de toute façon sur votre jeu, le fait de savoir justement qu'il n'y a pas de filet et que vous êtes devant un public.
Voilà, alors, ça a un impact sur, sur la manière de restituer les choses. Oui, c'est tout à fait ça. Alors moi, je préfère ça. Maintenant, j'avoue quand même que j'aime beaucoup quand même le travail purement de l'enregistrement, parce que c'est féroce, ça nous met en face de ce qu'on est, de nos lacunes, de nos pauvres possibilités, ça nous met en face des distances qu'on a à parcourir pour arriver à l'idéal qu'on s'est fixé, ça nous remet à notre place, quoi. Ben oui, c'est ça, arrête de penser que t'es plus haut que ce que tu es, quoi. Voilà, ça nous remet là.
Ces compositeurs, donc il y a Olivier Messiaen, dont on fête le centenaire ce mois de décembre, un compositeur avec lequel vous avez un rapport, on va dire, assez particulier en général, même si vous jouez d'autres, beaucoup d'autres, alors on pourrait s'en faire évidemment, faire la saga, quel est le premier souvenir que vous avez de sa musique ? La première fois que sa musique vous a touché, j'allais dire avant de le rencontrer, avant de rencontrer Yvonne Loriot, etc. Est-ce que vous vous souvenez exactement ?
Oui, très bien. J'avais 16 ans et je ne connaissais pas. Je connaissais simplement le nom Messiaen. Je n'étais pas vieux dans les études du piano puisque j'ai commencé tard, j'ai commencé à 13 ans le piano. Hein. Et à 16 ans, mon premier professeur de piano du conservatoire de Lyon, à l'époque où j'étais élève au conservatoire de Lyon, bon, m'a donné une petite pièce pour piano, pour deux pianos. Enfin, j'ai joué avec un de mes copains de classe, nous jouions tous les deux cette pièce de Messiaen qui s'appelait « Les visions de la Maine ». Cette année, on a joué quatre extraits de cette œuvre qui en compte sept. Enfin, voilà. Et c'était très beau, vraiment c'était très beau. Et quand le concert a été terminé, qu'on a joué, on a été contents. Enfin, moi, j'avais fait beaucoup de progrès d'ailleurs avec cette pièce-là. Des progrès de sonorité, ça m'avait obligé à chercher des couleurs, des plans, des machins. J'avais beaucoup aimé ça. Je m'étais dit après, je continuerai, j'en ferai d'autres. J'ai travaillé une autre pièce de Messiaen cette fois pour piano seul 2 ou 3 ans plus tard. Je suis entré au Conservatoire de Paris dans la classe d'Yvonne Loriot, son épouse. Et à l'occasion d'un des premiers concerts qu'elle organisait chaque année, enfin c'est ce qu'ils appellent les auditions de classe, où tous les élèves passent une brochette les uns après les autres pour jouer ces 10 minutes devant les parents, papy, mamie qui sont venus pour écouter les enfants jouer. Bon, là j'ai joué à Messiaen, Messiaen était ici. Et c'est lui qui est venu me voir et qui m'a embrassé, qui m'a dit « Mais c'était formidable, c'est formidable, vous devriez continuer, vous devriez en faire d'autres. » C'est lui qui m'a tendu la perche. Alors moi, j'avais 19-20 ans, hein, vous imaginez. Même pas, je sais pas, je dois avoir 18 ans. J'étais évidemment, j'étais tout fier, sans me rendre compte, on se rend pas compte de toute façon, cet âge-là, de ce que ça représente. Et j'ai continué mes études tout à fait traditionnellement. J'ai très peu travaillé de Messiaen à cette époque-là, puisque je voulais parfaire techniquement, j'avais besoin de travailler mes classiques, je n'avais pas beaucoup de répertoire dans ce domaine. C'est quand toutes mes études sur le plan classique au concert étaient terminées que j'ai décidé de me rapprocher du compositeur Messiaen qui était encore vivant. Et j'avais la possibilité là, puisqu'il m'avait déjà tendu la perche, cette fois d'y retourner en disant « Je suis prêt pour travailler votre œuvre, est-ce que... » Bon, j'ai travaillé, il est venu m'écouter et pouf, c'est parti. Je ne peux pas dire mieux, c'est parti, c'est-à-dire qu'il a été enthousiasmé. Moi, je dois dire que j'ai vraiment travaillé beaucoup, parce que, d'abord, c'est une œuvre difficile, mais c'est une œuvre que j'adorais. Mais comme toutes les pièces de Messiaen, ça ne dure jamais 10 minutes. Là, c'est 2h, 2h05, 2h10. Et puis, de mémoire, en plus, enfin, donc, pour apprendre par cœur. C'était quand même vraiment une épreuve, n'est-ce pas ? Mais c'est un travail qui m'a passionné. Et puis, là, du coup, je suis entré, j'allais dire, en quelque sorte, sous sa protection. Et ben voilà, à chaque fois que, qu'il le pouvait, il me demandait de venir là, d'aller là. Yvonne Loriot aussi, bien entendu. Et je les ai accompagnés souvent, un peu partout dans l'étranger, à l'étranger. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, quoi. Voilà.
Sur la particularité d'avoir, j'allais dire, à portée de main, le compositeur, oui, quand on est interprète, c'est le luxe suprême.
Ça pourrait être le luxe suprême.
Parfois, ça peut être justement dangereux ou par rapport à ses choix personnels, ses prises de risque. Comment vous l'avez vécu?
Écoutez,
ça?
Justement, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'avec lui, donc avec Olivier Messiaen, et je ne suis pas le seul artiste à le dire, hein, seul musicien à dire ça, c'est qu'avec lui, son écoute était extrêmement sereine, bienveillante. Il écoutait tout. On pouvait faire n'importe quoi ou jouer très bien, il écoutait tout. Bien, si c'était pas bon, il avait la politesse de faire comprendre quand c'était pas bon. Mais généralement, moi, quand je lui jouais quelque chose, j'avais préparé mon affaire. Et dans un cas comme ça, quand j'ai affaire à quelqu'un de vivant, quand j'ai affaire à quelqu'un en qui je sens que je peux tout dire, je ne me retiens pas. J'y vais franchement, je livre tout ce que je sens qui se passe en moi quand tu joues. Et jamais une fois, il ne m'a repris sur un ou un autre détail. Chaque fois, c'était ça. Alors, il y a eu une fois où il m'a expliqué que, des détails, mais qui n'avaient même rien à voir avec moi, comment l'éditeur, à l'époque, c'était les éditions Durand, il y avait un correcteur qui, évidemment, copiait la musique de Messiaen pour faire les liens, puis que le correcteur avait dit, moi, il y a trop d'altérations, alors il avait supprimé tel... c'était infernal. Quand Messiaen reçoit la musique et qu'il voit toutes les corrections, il a cru faire un malaise cardiaque parce qu'il a supprimé toutes les couleurs que Messiaen voyait et entendait, étaient totalement faussé. Alors il m'a raconté ça, c'était aussi le moyen de me faire comprendre quand je lui jouais, l'œuvre était encore un peu fraîche, qu'il fallait bien que je surveille que chaque note de ce qu'il avait écrit avait son importance et que j'avais, par tradition romantique, déjà tendance à souligner telle chose. Alors que lui, il y avait des complexes qu'il fallait donner à entendre. Voilà. Alors c'était, je pense, j'interprète aujourd'hui ça comme... Prenez garde à ne pas aller trop loin dans cette voie-là, tout en respectant ce que vous sentez. Mais sinon, et encore, voyez, c'est moi qui interprète ça comme ça. Je n'ai jamais rien eu de... Alors, d'ailleurs, ça me fait penser qu'après tout, j'aurais adoré être à l'époque de Beethoven, Schubert ou même Chopin, parce que je suis sûr que j'aurais eu le même toupet pour leur jouer le truc comme je le pensais. Je suis sûr que j'aurais eu le même toupet. Parce que je sens que quand... Alors on peut ne pas aimer, hein, bien sûr. Je dis pas que j'ai raison. Je dis simplement que quand on est en accord avec soi-même, on livre forcément un discours qui est, entre guillemets, sain, qui n'est pas contrarié, qui est naturel, quoi, voilà, qui est sain. Oui, sain, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Je suis persuadé. Alors, c'est pour dire que cette expérience avec Messiaen m'a conforté dans l'idée que je n'avais pas de complexe à avoir avec les autres.
Que j'allais vous demander, est-ce qu'il y a eu un moment où finalement Messiaen a été un peu un frein, ou enfin sa musique évidemment plus que sa personnalité, sur vous en tant que interprète?
Non, au contraire, je dirais même que plusieurs fois j'ai joué ses œuvres, la même œuvre, devant lui en concert. Je me rappelle, mais j'ai eu trois expériences avec une même œuvre. La première fois était très bonne. La deuxième fois, elle n'était pas bonne du tout, pour moi. Mais la troisième fois était très bien. Mais la deuxième fois, quand il est venu me voir à l'issue du concert, mais j'étais dans un état. J'avais eu le trac, j'avais fait une petite erreur de mémoire, j'avais joué un peu trop vite. Puis alors j'avais surjoué, comme on dit, un petit peu trop théâtral, un petit peu trop truc. Et il a très bien perçu ça, monsieur. Mais au lieu de me dire que au lieu de me reprendre là-dessus, j'ai eu la surprise de l'entendre me dire que c'était beaucoup mieux que la première fois. Et alors je dis, mais quand même, je dis, tout de même, les libertés que j'ai prises, l'interprétation, j'ai fait ceci, j'ai... Oh, il me dit, je, mais qui sommes-nous? C'est lui qui avait écrit qui me disait ça. Et en réalité, il minimisait beaucoup l'importance que j'accordais à ma petite personne et les petites fautes que j'avais faites. Il a minimisé ça très bien. Alors, quand il m'a dit que c'était mieux, je pense qu'il a compris que le cheminement que je prenais au travers de cette œuvre allait dans le bon sens, qu'il y avait peut-être des choses encore à réaliser, mais il comprenait que le chemin, probablement que le chemin devait être le bon. Voilà, je pense que c'est ça.
Alors, justement, alors, c'est peut-être difficile de répondre, j'imagine, mais qu'est-ce que vous pensez lui avoir apporté ?
L'impression que j'ai eue, ouais. Quand je jouais et qu'il était content, peut-être de sentir que il y avait une transmission qui s'était faite par lui auprès de son épouse et par Madame Loriot au travers des différents élèves qu'elle avait eus, dont j'ai fait partie, bien sûr. Alors, en jouant ça, il voyait déjà comment la transmission se faisait. Et alors, en ce sens-là, il voyait que son œuvre évoluait. Et peut-être, en tout cas, comme il était très content de mes interprétations, il devait voir que son œuvre vivait en des mains à peu près bonnes, quoi. Enfin, je peux pas non plus me dire trop de choses. Je sais pas. En tout cas. J'ai quand même toujours eu l'impression que ça faisait partie des moments privilégiés. Pour moi, quand le concert était terminé, qu'il était là, que je faisais, c'est-à-dire en disant, ce concert m'a servi, et j'ai l'impression que l'œuvre de Messiaen en a bénéficié. Dans le temps, quoi, je veux dire, hein, vous voyez, dans la prolongation, dans la transmission, l'œuvre en a bénéficié. Maintenant, vous dire ce que j'ai pu apporter de plus à lui, je ne sais pas, à l'œuvre, je ne peux pas dire.
Alors cette œuvre, justement, comment, vous trouvez qu'elle est perçue comment à travers les décennies? Évidemment, c'est comme dans tout, il y a des modes, etc. Comment vous la voyez évoluer? Alors évidemment, là, cette année, c'est l'année de la célébration, donc c'est un peu l'overdose, mais vous voyagez, vous voyez le public. Comment vous voyez la perception, la valeur qu'on lui a donnée, qu'on lui a pas donnée, ce qu'on lui donne aujourd'hui?
Écoutez, bon, d'abord il y a une chose. Autrefois, les orchestres mettaient une semaine pour monter une œuvre de Messiaen pour pouvoir la jouer. Aujourd'hui, en deux jours, c'est fait. Les gens vont beaucoup plus vite. Les gens lisent beaucoup plus rapidement. Les chefs d'orchestre passent beaucoup moins de temps à travailler, à monter, ce qui fait que ça devient plus facile. De ce fait, les chefs hésitent beaucoup moins à programmer ça. Petit à petit, dans le répertoire de l'orchestre, il n'y a pas un orchestre au monde qui n'ait pas fait au moins deux ou trois œuvres de Messiaen et qui les rejoue, j'allais dire, presque régulièrement. Hein. Alors, ça, c'est déjà une chose. Maintenant, là, je parle des grands effectifs. Il y a quelques soucis, quelquefois, avec le chant. Avec les chanteurs, les chanteuses. Parce que Messiaen a écrit des mélodies essentiellement pour voix féminine, des grands sopranos dramatiques, qui demandent à la voix d'abord une espèce de grande puissance expressive, une tessiture assez large et surtout une technique qui permet des sostenuto, j'allais dire, dans des registres qui sont évidemment les registres les plus délicats, le haut médium, qui sont pas faciles pour la voix à dominer, ce qu'ils appellent les passages. Il y a une période dans la voix entre fa dièse, sol, qui sont ces passages, et Messiaen a beaucoup écrit dans ces tessitures-là. Ça rend l'œuvre plus difficile à chanter encore, et surtout les mélodies durent 40 minutes, 40 minutes, bon, c'est très long. Alors, j'espère qu'il y aura toujours, j'allais dire, des chanteuses qui vont se pencher de manière très sérieuse sur ces mélodies parce qu'elles sont magnifiques, vraiment. Quant au pianiste, alors maintenant c'est à moi, maintenant qu'il soit aussi professeur, d'insister un peu auprès de mes étudiants pianistes pour se pencher sur cette musique-là. Parce que, évidemment, ils tombent tous, comme moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune, ils tombent tous dans le panneau, dans le travers de la formation traditionnelle, hein, en dehors de Mozart, Schubert et puis Liszt, point de salut. Sans se rendre compte qu'effectivement, même ne serait-ce qu'en tant que pianiste, j'allais dire français, il y a une école française encore de la composition, de la musique. Messiaen est, malgré toute la culture, la vaste culture sur le plan international qu'il avait, reste quand même un compositeur qui a étudié la musique avec des compositeurs français, qui s'est imprégné beaucoup de la musique de Berlioz, Debussy, Ducas. Hein. Donc, il y a une espèce de... Alors, je pèse le mot parce qu'il ne faut pas non plus entrer dans l'identité nationaliste tout le tralala, mais si vous voulez, c'est une espèce de comme je parle le français, il y a une musique qui parle le français aussi, voilà, tout simplement. Alors là, si j'avais encore un rôle dans le domaine de la musique de Messiaen, c'est de rappeler en tout cas à ces jeunes étudiants qui travaillent avec moi qu'en dehors des vieux classiques que l'on joue qui sont nécessaires, il est bon de se rappeler que Messiaen fait déjà partie. Presque des en tout cas au moins de l'histoire, si ce n'est des classiques de la musique, au moins de l'histoire, et qu'il faut l'entretenir, cette histoire, la faire vivre tout le temps. Alors, comment c'est perçu? Il y a une prudence au niveau de cette jeune génération de pianistes. Bon, en plus, il y a des retours de manivelle en ce moment. Que je n'aime pas beaucoup, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan, idéologique, le retour aux vieilles valeurs de l'Église, ces trucs-là, sont pour moi très agaçants. Hein, c'est très agaçante. Alors, la musique de Messiaen, qui est une musique aussi, évidemment, qui soutient des idées de chrétiennes catholiques, vraiment, elles peuvent... écarter certaines jeunes générations de ce type de sentiments, alors que moi-même je ne suis pas croyant, en plus j'adore cette musique-là parce que c'est une musique qui raconte, qui avec d'images, une musique, donc il y a moyen d'interpréter ça,
oui, sans être...
ça il faut se méfier un petit peu de ça, en plus il faut se méfier de cette appropriation, j'allais dire, par l'idée de cette musique. La musique de Messiaen va bien au-delà du thème religieux qu'elle pourrait défendre s'il avait besoin d'être défendu. Alors, cette petite chose-là pourrait être, évidemment, pourrait contribuer à ce que la musique de Messiaen ne soit pas autant jouée par des pianistes aujourd'hui qu'autrefois. Peut-être, je ne sais pas.
ce rôle d'enseignant, ce rôle de passeur, un peu aussi, d'une certaine manière, c'est quelque chose d'important, d'essentiel pour vous, d'enseigner ?
Oui, oui, j'aime beaucoup ça.
Mais non, l'impact mais que ça a par rapport à...
C'est parce que, j'aime bien dire ce que je sais, j'aime bien me présenter ce que je sais par l'expérience que j'en ai, et puis j'aime bien être contredit par une idée nouvelle qu'un jeune étudiant me soumet. Il dit, mais pourquoi ? Et puis, tu es obligé de me dire à ce moment-là, bah tiens, oui, au fond, pourquoi ? Et tu es obligé de chercher mes arguments pour lui prouver qu'effectivement j'ai raison, ou me dire, écoute, je n'ai pas d'argument pour te dire ça, peut-être as-tu raison, continue, je te dirai dans quelques temps si oui ou non l'édifice tient debout ou non. Alors ça, j'aime beaucoup, ça. Il y a un échange qui est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, le fait d'échanger, ça permet de rester jeune toujours, quand même. Jeune là, hein, jeune dans la tête, jeune vif, quoi, à l'écoute, on la recherche. Voilà. Tant qu'on cherche, on vit. Quoi. Dès l'instant où on ne cherche plus, on branche la télé et puis c'est tout. Quoi.
Comment vous voyez la scène musicale française, j'allais dire en 2008, la vie musicale, l'enseignement, les conservatoires, les compositeurs, etc. Est-ce que vous avez l'impression que ça ronfle un peu, que c'est un peu... est-ce que vous avez pu avoir, pour être complètement dans Messiaen, et lui qui a été au centre de tempêtes, etc. Si on revient même avant, le domaine musical, tout ça. Enfin, comment vous voyez la situation, le paysage aujourd'hui ?
Écoutez, c'est bon, d'abord, aujourd'hui, cette année, j'ai pas vu grand-chose, je l'avoue. À fort honnête que j'ai dû passer en tout et pour tout cette année 2008, même pas l'équivalent de 100 jours à la maison. Même pas, je crois pas. Et quand je les ai passés là, c'était pour régler mes problèmes de facture et de machin. J'ai pas eu le temps de m'intéresser à ce qui se passait. Bon, cela étant, il y a des créations toujours et tout le temps. Les oreilles restent ouvertes, on entend, on voit ce qui se passe. Il est évident que plus rien n'est choquant aujourd'hui quand même, hein. Plus rien n'est choquant. Vraiment plus rien n'est choquant. Les cadres qui étaient établis et qui ont tous éclaté dans les années 70, ces cadres-là n'ont plus la saveur de l'interdit dont il fallait se libérer. Comme il n'y a plus cet interdit-là, il n'y a que j'allais dire que la profondeur de l'idée artistique qui devrait rester, ou quelquefois des néo-modernes, comment dire, on peut dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est la période la plus productive en œuvre géniale. Mais en tout cas, c'est une époque qui laissera, comme toutes les époques d'ailleurs, qui va laisser des œuvres, qui laissera une trace de peut-être justement de ce no man's land, peut-être que l'on cherche actuellement. Je peux pas dire plus que ça. Moi-même, en m'entendant parler là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai raison de penser comme ça ? D'abord, pour avoir un recul sur l'époque d'aujourd'hui, il faut avoir déjà une sacrée dose d'intelligence que je n'ai probablement pas. Hein. Une espèce d'autosuffisance que je n'ai pas non plus, je crois pas. Pour pouvoir juger de ce qui sera, de ce qui est, de ce qui a été fait. Un tel était génial, un autre ne l'est pas. Je n'ai pas du tout cette capacité-là de pouvoir affirmer quoi que ce soit. Je constate simplement qu'effectivement, il y a eu une époque où il fallait rompre avec tout ce qui avait été fait. Une fois qu'on a tout rompu, maintenant chacun cherche... cherche son chemin, chacun fait comme il l'entend. Alors, on a des retours, on a d'autres qui continuent. Évidemment, ça devient terriblement très intellectualisé. Des musiciens professionnels, moi, dont je fais partie, ne comprennent pas. Il y a des choses qui m'échappent dans la musique d'aujourd'hui.
Mais bon, voilà, je peux pas dire plus. Je peux pas vous dire plus pour l'instant de tout ça. Je sais que j'ai quand même fait pas mal de musique contemporaine à une certaine époque. En signant un disque du XXe siècle, là, maintenant, j'ai au fond de moi-même l'intention de dire j'ai assez donné avec cette musique-là, parce qu'il y a une partie du répertoire d'avant que je n'ai pas exploré et que j'ai envie de jouer à ma manière, à la manière d'un homme du XXIe, quoi, que j'ai envie de faire. Peut-être qu'au fond, c'est peut-être ça le plus important, c'est-à-dire que quelle que soit l'époque, une œuvre puisse revivre... par les hommes d'aujourd'hui ou d'hier ou de demain, quoi, puissent revivre tout le temps avec les moyens qu'on a aujourd'hui et qu'ont les gens à l'époque où ils la jouent, quoi.
Justement, vous produisez à Paris en concert ce mois-ci, vous allez justement jouer autre chose que des compositeurs du XXe siècle.
Justement, des relations. Mozart, je fais des liens entre, justement, pour fêter quand même, d'une manière plus que symbolique, l'anniversaire de Messiaen le 10 décembre. Hein, donc le concert aura lieu dans le programme de ce concert. Il y avait des œuvres de Mozart et Messiaen, j'ai cherché quelques affiliations selon les œuvres, soit une tonalité, soit un sentiment de naïveté ou d'innocence. Voilà, bon, Chopin, Debussy et Messiaen, traitant tous les trois de la couleur, de la gamme, de ces gammes que Chopin va initier, que Debussy reprendra, que Messiaen exploitera. J'ai essayé de composer un programme qui relie Messiaen avec les autres d'une manière le plus naturelle possible. Voilà.
Vous avez évoqué en début d'entretien le fait que vous avez commencé par le saxophone.
Oui.
Est-ce que vous avez toujours chez vous un ou plusieurs saxophones ?
Ouais, non. Je n'en ai plus parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Et à l'époque, eh bien, je voulais m'acheter un piano. Le jour où j'ai vraiment décidé que le saxophone était terminé, il fallait que j'achète un piano un peu meilleur. Je vais venir m'installer ici à Paris. J'avais besoin de tout le fric que je pouvais. J'ai revendu mon saxophone. J'ai eu un petit pincement au début, mais ça m'a très vite passé.
Pas de manque alors ?
Non, pas du tout, parce que la musique qui était écrite pour le saxophone, non, c'est pas la musique d'ailleurs, même si, bon, mais l'instrument me semblait beaucoup, par rapport au piano, l'instrument me paraissait tellement plus limité, j'étais tellement, un assouvissement tellement complet par la sensualité, par l'harmonie, par les flots sonores du piano, que très vite, le saxophone est passé dans l'ombre. Mais je garde toujours une petite tendresse pour cet instrument.
Même dans le jazz, c'est un instrument qui vous a...
J'en ai fait un an du jazz à l'époque où j'ai fait mon service militaire. D'ailleurs, c'est l'instrument roi pour ça. Hein, je reconnais, c'est l'instrument roi. Mais comme le jazz n'est pas non plus la musique que j'ai cultivée, on n'a qu'une vie assez courte et c'est surtout on n'a qu'une mémoire. On apprend très vite et très bien jusqu'à l'âge de 28-29 ans et après la mémoire commence à perdre un peu de ses facultés. Alors on l'entretient en travaillant comme je le fais tout le temps, mais on apprend beaucoup plus difficilement. Alors se disperser en plusieurs choses, pour moi c'était impensable à l'époque.
Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que quand on vit la musique, quand on l'interprète, on l'écoute en permanence, est-ce qu'on peut quand même prendre des claques par des univers musicaux qui sont pas du tout les siens et dans lesquels on sait qu'on mettra jamais le doigt ?
Oui, je crois, oui. Oui, ça, je crois. Enfin, tout dépend de l'ouverture d'esprit de ce que.
Ce qui vous concerne.
Bien sûr. Mais oui, par exemple, écoutez, quand même, j'ai été fasciné. Je connais pas du tout. Quand je dis que je connais pas, c'est-à-dire que je connais quoi ? Ting, 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 à peine en radio, un truc comme ça. Donc, on peut bien vouloir une publicité pour Obao. Enfin, vous voyez le truc. Bon. Mais quand on va au Japon et qu'on entend effectivement ces instruments pincés, ces koto, ces voix, et qu'on voit de vraiment l'art d'écouter, de préparer l'instrument et tout à côté de servir le thé, quand on voit cette espèce de rituel sacré qu'entoure la musique. Alors là, ça prend des dimensions qu'on ne soupçonne pas chez nous.
Ça a un impact ou pas, ou jamais chez vous, ce genre de choses ?
C'est-à-dire que c'est un impact émotif, bien entendu, mais qui reste inaccessible, parce que d'abord, c'est une chose que je ne pourrais jamais pratiquer physiquement. Mais c'est un impact émotif, bien entendu, parce que là, je peux dire, Je ne vois pas. Je vois difficilement. C'est pas que je vois difficilement, c'est que c'est impossible d'imaginer au Japon un concert comme ça fait avec une jeune femme habillée en jean. C'est impossible. Il y a une espèce de mise en condition de l'âme par le travestissement du corps, par le qui fait que on est dans un monde ailleurs. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est très fort. Alors, on peut, quelquefois, mais ça a été rare, c'est quand je suis allé aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, oui, c'est ça, j'ai été invité à jouer à l'opéra de Damas, en Syrie. Bon, c'est une salle d'opéra sublimissime, toute neuve. Pensez-vous, une salle de 2000, plus de 2000 personnes, des velours rouges, des trucs superbes, hein. Des moyens techniques impensables. Ils n'ont pas trouvé encore de personnes pour pouvoir diriger cette structure comme il le faudrait. Bon, c'est pas facile, évidemment, de programmer là-bas des opéras avec des héroïnes féminines qui se tuent à moitié nues sur la scène. Et là, c'est pas évident, ce genre de truc. Mais tout de même, à l'occasion d'un voyage comme ça, le soir des concerts, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec les uns les autres qui m'ont fait écouter de cette musique. Je veux dire, cette musique au flot ininterrompu, c'est-à-dire que ça commence et ça s'arrête. Il y a d'infinies variétés à l'intérieur qui sont extrêmement sensibles. Je veux dire, quand on écoute d'une oreille peu avertie et comme ça un peu distraite, parce qu'en plus eux ils écoutent ça comme si, je sais pas, enfin comme nous, je sais pas quoi, et ils entendent tout de suite les subtilités qui nous échappent complètement. Il m'a fallu beaucoup de temps, bien sûr, pour essayer d'entrevoir un peu ce que cela provoquait, je sais pas. Mais quand on commence à entrer dans cet univers, c'est une hypnose totale. Donc, vous dire que c'est, tout dépend du degré de réceptivité de chacun et de la curiosité qu'on a à écouter tel instrument, Alors, il y a eu une rétrospective Oum Kalsoum il n'y a pas longtemps sur Arte qui était superbe d'ailleurs. Je ne m'attendais, je l'avais jamais vue, je l'avais entendu chanter, mais quand j'ai vu cette femme sur scène que je ne voyais pas du tout physiquement comme ça, habitée par une espèce de tressautement incessant, n'est-ce pas, je n'aurais pas imaginé à ce point-là que ce soit si physique, et de voir que quelles que soient les générations entre 7 et puis 1000 ans, n'est-ce pas, les gosses ou les vieillards étaient tous avec cette même transe. Je vous dis, ça c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, vous dire maintenant comment je suis sensible à ça. Je suis beaucoup plus sensible à ce type-là, de quelque part, ce type de tradition, qu'aux musiques que j'entends aujourd'hui qui ne me plaisent pas vraiment. Très peu, je veux dire très peu. De musique, de musique revendicative, par exemple, que l'on dit revendicative, revendicatrice, pardon. C'est de la revendication de salon, ou alors pour cruche, quoi. Je trouve que c'est pour des cruches. Je suis un peu cru, mais si pour faire passer cette musique-là, il faut voir le cul de la bonne femme se déhancher, c'est pas particulièrement valorisant pour la musique, je trouve. Je trouve que c'est pas particulièrement... Alors, je suis pas sensible du tout à ça. Bon, on va dire, pour le derrière de ces charmantes personnes, c'est pas particulièrement... c'est même pas de la réaction que j'ai, c'est que je sens que que ça reste de la musique, là, pour le coup, de consommation. Voilà. Alors, cette musique-là, je ne suis pas curieux. Effectivement, j'en suis pas curieux. Je trouve que la musique reggae de Bob Marley, à comparer, était une musique sensationnelle. C'est une musique qui parlait, qui avait quelque chose à dire. Alors bon, vous me direz, c'est pareil, ça fait 40 ans en arrière. Mais, comment vous dire, je n'entends pas aujourd'hui l'équivalent, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, ou alors, si on peut l'entendre, je trouve dommage qu'elle soit entourée, d'une mise en scène qui fait qu'au fond, ça nous perturbe dans l'idée de ce qu'on écoute, dans la volonté d'écouter les choses. N'est-ce pas, voilà. Thank you.
avez envie de quoi dans les années qui viennent? Vous avez parlé de... pour tourner un peu plus vers des compositeurs, on va dire plus anciens, que vous aviez peut-être soit délaissés, etc.
Oui, j'ai délaissé, oui, bien sûr.
Quelles sont vos autres envies sur disque, sur scène? Quels sont... Des projets peut-être proches déjà qui sont
prévus, ben, plein de choses, j'ai plein de choses à faire, écoutez, j'ai plein de choses à faire. Et bien par quoi commencer? J'ai plein de choses à faire. Jouer, bien sûr, toujours, mais j'aimerais quand même de temps en temps pouvoir voyager pour, sans avoir à jouer, pour nourrir de ce que je vois. Hein, j'aimerais pouvoir profiter de un peu plus que jusqu'à présent de l'atmosphère d'un pays dans lequel je suis et revenir avec... Parce que ça nourrit tout de même tout ça, ça nous nourrit nous, soi-même, plus on est ouvert sur, sur ce qui se passe là. Bon, ça se ressent dans le jeu. Hein. Alors j'aurais plutôt envie de me sortir un peu du cadre de mon piano pour voir autre chose. Et
est-ce que c'est pas aussi même pour digérer un peu, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le fait, vous avez dit je suis resté chez moi 100 jours seulement dans l'année, effectivement des concerts qui n'en finissent pas, etc., des cours, etc.
C'est vrai.
Pierre Laurent Aymard qui récemment nous disait justement qu'il avait aussi parfois besoin qu'il voulait se poser dans l'année à venir pour justement ne serait-ce que digérer tout ce qui...
Oui, digérer, c'est peut-être ça, ou simplement digérer, c'est peut-être le mot, ou pour oui, c'est...
Laisser de côté certaines choses.
Oui, on laisse, pour faire le tri. Faire le tri de certains choix, certains choix de certaines options que j'avais prises, et dire bon...
C'est proche du regret, ça, ou pas?
Non, pas du tout, parce que si j'avais pas fait tout ça, d'abord je serais pas là à vous parler peut-être. non, pas du regret, non. Regret, c'est-à-dire que il y a toujours un petit regret de n'avoir pas pu faire tout ce qu'on veut, bien entendu. Mais je dirais
vous n'êtes pas encore mort.
Je suis pas encore mort d'une part, et puis mais regret de ne pas avoir déjà profité des choses que j'aurais pu faire et que j'ai pris dans la course d'une chose ou d'une autre, je n'ai pas pu faire. Donc ça, j'aimerais essayer de maintenant de profiter de ça. Essayer de comprendre des choses, à quoi ça sert de comprendre. Je vous pose la question. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de comprendre quelque chose. Comprendre, chercher à comprendre. C'est ça le truc. C'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de travailler, essayé de comprendre ce qui se passait. Et plus on essaye de chercher à comprendre, moins on fait. Alors maintenant, je voudrais faire. C'est-à-dire, pas forcément réfléchir, mais faire. Alors, il y a des trucs que je vais faire sans avoir besoin de réflexion déjà. C'est peut-être un voyage ou deux sans piano, pour simplement voir les beautés que je veux voir depuis trop longtemps. Et revenir en me disant c'était trop beau, et automatiquement c'est ce que j'aurais vu va forcément m'apporter des émotions, des impressions qui vont transparaître là-dedans. Là, bon, après continuer évidemment ma réflexion dans le chemin des compositeurs que je vais aborder, bien sûr, mais essayer de comprendre autre chose que ce qu'il y a derrière tout ça, ça m'a tellement torturé l'esprit. La réponse, personne ne l'aura jamais. Que cette partie-là, je vais peut-être effectivement maintenant dire stop, ça suffit maintenant. Alors donc, quels sont les projets? Il y a aussi... alors maintenant, pour revenir à des choses plus purement musicales, il y a des compositeurs et des œuvres que je vais aborder, que je veux faire depuis un moment, et que maintenant je me sens enfin libre de pouvoir faire. Voilà, je peux dire le mot libre de pouvoir faire. Parce que j'aurais suffisamment fait pour certains, il faut que je fasse pour d'autres.
Des œuvres en particulier
Des œuvres, oui, mais ça, je vous le dirai en temps voulu.
Donc on vous souhaite bon voyage sans piano, alors.
Oui, c'est-à-dire que... de toute façon, je vais vous dire, c'était absolument terrible. Je n'ai jamais, jamais, mais là, vraiment, je touche le bois partout qu'il y a autour, je n'ai jamais arrêté de jouer du piano plus de 3 jours. Là, pour la première fois de ma vie, je vais m'arrêter 10 jours complets. Mais j'en suis paniqué. Je pense que quand je vais être sur le bateau, je vais me bouffer les doigts en me disant « Et si je ne me rappelais plus où se trouve le do en face de la serrure et tout ça ?» Je suis en train déjà de prendre des points de repère, vous voyez, un peu, en me disant « Do, ré, mi, fa, sol, ito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. » Je vous assure. Je ne sais pas quelle réaction je vais avoir. Soit je vais me dire, en rentrant, je vais me dire « Mais c'est extraordinaire, je ne rejouerai plus jamais. Soit je vais me replonger là-dedans en me disant mais quel idiot j'ai fait de me séparer de cet instrument pendant si longtemps. Je ne sais pas, c'est idiot, mais ça fait partie des petites aventures comme ça. Une autre petite chose que je ferai aussi, je me replongerai le nez dans mes casseroles parce que j'aime bien cuisiner de temps en temps.
Bien, mais écoutez, bon. On vous retrouvera pour quelques conseils.
Quelques conseils culinaires après un bon concert. Voilà.
Merci Roger Muraro.
Merci à vous.
Rencontre par Marc Zisman.